monsieur, mais c'est fermé, là.
J'ai juste une petite question à
vous poser. Non, attendez, vous avez vu l'heure, hein, j'ai tout rangé, revenez demain.
CO2, mon amour.
Mais c'est pas ça. C'est un grand duc.
Oui.
C'est une espèce protégée, je fais pas ça, moi.
C'est parce qu'il est chez moi.
Denis Chessou.
Il vient d'où?
Je sais pas. J'avoue qu'un hibou dans mon salon...
Ah bah oui, mais ça, c'est pas banal, ce qui vous arrive. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui a un hibou dans son salon.
Sur France Inter.
C'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Allez,
bonne journée.
Bon revoir.
Merci.
Salut.
Ah ben non, pas dans votre salon, le hibou. Tranquillement, tranquillement, comme les chouettes, en pleine liberté. Bonjour à tous, c'est CO2 Mon Amour, votre magazine d'environnement, mais très, très nature, vous le savez à présent. La nature qui chuchote à vos oreilles. Avec aujourd'hui Paul Percheron à la technique, nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Alors vous l'avez compris, on va bien sûr parler de chouettes, mais auparavant, 2 février, journée mondiale des zones humides, date anniversaire de la signature en 1971 à Ramsar, en Iran, de la Convention internationale de ces zones. En France, c'est l'occasion de proposer donc des animations pour les découvrir durant tout le mois de février. Et c'est la jolie ville marais, oui, une ville marais qui est Saint-Omer, et le parc des Caps et Marais d'Opale qui nous accueillait vendredi pour le lancement dans le Pas-de-Calais. Quoi, il y en a marre? Mais je me plains pas, moi j'explique. De tout temps, vous savez, ça n'a jamais été facile d'être une mare, un marais. Encore moins au XXIe siècle, voilà tout. Insalubre, terrier à grenouilles, lupanar à crapaud, lavabo des sorcières, moi j'ai tout entendu. Alors on m'a comblé, oh non, pas d'aise, mais avec des gravats. On m'a séché, drainé quand je suis prairie humide et que bah, les agriculteurs, il faut bien dire qu'ils ne sont pas aidés forcément sur ces terrains difficiles, bah, on m'a retourné et on m'a planté du maïs parce que c'était plus simple. Bref, on me bâillonne pour m'empêcher de chanter. Délit de sale gueule. Ah, j'ai souvent eu mauvaise réputation, je donnais soi-disant la fièvre, comme mes amis les marécages. Marécages, une mare en cage. Oh, dites donc, quel karma. Alors bien sûr, on a eu quelques stars hein, qui ont redoré notre blason. La Dame de Nohant dans le Berry qui nous a gratifié de la mare au diable. On avait aussi la Maragorio donc, dans le Nord. Alors ça, c'est une copine parce qu'elle est devenue réserve biologique domaniale. Ce qui est quand même une très belle revanche. Ah non, je suis pas seulement un truc qui stagne, loin de là. Je prends mon temps, oui, mais je me remplis d'eau en profitant d'une petite dépression comme ça en ouvrant la bouche. Et heureusement pour nous, les étangs, les lacs, les tourbières, bah ça évolue quand même un peu et notre image a changé. D'ailleurs, le rapport parlementaire Tufnel-Bignon nous aide bien, quoi. Les oiseaux m'ont toujours repéré. Je brille au soleil pour eux comme un œil attirant. Ils descendent du ciel pour boire quelques gouttes de ma vie et ces emplumés m'ont toujours recherché. Alors heureusement, les amoureux du vivant, les écologues me recherchent, m'inventorient, m'interrogent sur mon fonctionnement, me trouvent... Joli, bah ouais. Certes, on n'a jamais détruit autant de zones humides en France, dans le monde, mais mettez-vous bien ça dans vos cerveaux, lobotomisés par l'asphalte et l'agriculture productiviste. Moi, la mare, je fais partie de la maison loïkos, hein ? Eh oui, c'est ça, la maison commune, et je fais même partie de votre imaginaire. Alors, entre mer et prairie, j'appartiens à votre paysage, votre identité, même si vous ne le savez pas. Demain, avec l'effet de serre qui galope comme vos chevaux dans les prés, après nous avoir drainé tout l'été, quand la bise et surtout le réchauffement fut venu, comment danserez-vous maintenant? Alors mes copines, zones humides, les étangs, les tourbières, les sagnes à l'accent occitan, ben vous serez très heureux en fait de nous retrouver. Car avec les sols, je suis votre assurance vie, votre assurance eau, votre captage de carbone. Et vous qui avez depuis longtemps ce don inné de détruire ce que la nature vous a donné, vous serez content, non loin de vos longères, de retrouver votre mare. Vos bêtes viennent s'y rafraîchir, meugler, hennir de joie en faisant descendre mon niveau d'eau. Bah, je suis là pour ça. Et puis je suis là aussi pour rien, je suis. Je suis lié à votre histoire, à Saint-Omer comme partout. 40% de la biodiversité, c'est quand même nous qui la fabriquons. Et puis je suis une station d'épuration à moi toute seule. Alors vive les zones humides et les agriculteurs, les éleveurs qui travaillent avec et dessus. Larguez les amarres si vous voulez, mais ne larguez jamais les mares. Sinon, vous vous larguerez vous-même. Mais oui, la vie va être très très chouette jusqu'à 14h, vous l'avez compris. Belle expression donc qui nous renvoie à notre boule de plume. Tout savoir sur la chouette à l'orée des forêts de Chartreuse, ça va être avec Patrick Deschamps dans quelques instants.
I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down. And I'm afraid. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song,
revival.
I'm singing revival,
revival,
revival song,
revival,
singing.
Bah, qui était ce garçon tout à fait enthousiaste? Eh bien, c'était Gregory Porter, Revival. Ben oui, on revit sur France Inter.
CO2, mon amour.
Il y a des merdes d'oiseaux partout par terre chez vous, c'est parfaitement dégueulasse.
Mais non, ça c'est moi quand je me transforme en chouette.
Denis Chessou.
De quoi?
Ah ouais, la sensation de liberté, je vole dans la pièce, je me sens plus et je fais pas gaffe.
Sur France Inter.
On a vraiment de la chance parce que là, avec ce qui est tombé aujourd'hui, avoir la chance d'avoir ce soir une demi-lune comme ça, ça nous permet d'éclairer les falaises de Chartreuse et de ne pas être complètement coincé sous les arbres, de rien voir. On a des effets de contre-jour là, avec les branches mortes des tilleuls et tout, c'est magnifique. Donc là, on est bien. Et dans les forêts de Chartreuse, ben, c'est le bon moment pour écouter les chouettes.
Alors nous avons en fait 9 rapaces nocturnes, chouettes et hiboux en France, de l'ordre des strigiformes. Voilà, et puis après vous avez les familles, les sous-familles, et alors là je m'arrête parce que si vous voulez chez eux, chez les hiboux et les chouettes, c'est à peu près aussi compliqué que des familles siciliennes alliées à des familles napolitaines émigrées dans le Bronx, voyez hein. Bon, donc c'est pas très simple. Bon, elles apparaissent il y a environ 20 millions d'années, bien avant d'ailleurs pour la chouette effraie. Alors, vous avez celles des forêts, comme la tegmale, quasi invisible. Vous avez celles qui suivent le pas des paysans et des bocages, comme la chevêche. Celle qui a besoin d'eau et de zones humides, ouais, la chouette des marais. Bon, heureusement, maintenant, on n'en a plus peur de ces fameux chouettes parce qu'il n'y a pas encore si longtemps, enfin, dans les années 60, on en retrouvait encore, si vous voulez, clouées sur les portes des granges. Ce sont des auxiliaires formidables de l'agriculture. Je vous prends par la main avec Patrick Deschamps, très très bon et formidable naturaliste, raconteur du vivant, qui vit dans ce très beau département de l'Isère. Lui, il est dans le Grésivaudan, à Sainte-Marie-d'Alois, pleine de l'Isère, entre Grenoble et Chambéry. Et ce soir-là, eh ben, on n'a pas regardé la télé, on n'a pas écouté la radio, on n'a pas bu un coup. Qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé aux chouettes, aux hulottes.
Alors Patrick Deschamps, donc ce château du Fayet, c'est d'ailleurs le mot Fayard, hein, le être derrière le Fayet. Ça, ouais. Bon, il a une petite particularité.
Ben oui, parce que ça a été le château de Marie Touchet, la maîtresse de Charles IX, mais pas que.
Oui.
Parce qu'ici, dans les tours qui sont là, les deux tours qui restent du château du Moyen-Âge, il y a des chouettes. Et pendant longtemps, il y a une belle chouette effraie qui habitait ici. Alors je ne sais pas si elle est revenue, parce que les chouettes effraies, elles ont un peu disparu de toute la région du Grésivaudan. Par contre, là, il y a une chouette hulotte. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand on vient ici l'été, eh bien, c'est une cheminée en briques là-haut. Et entre chaque brique, il y a un trou noir. Mm-hmm. Et comme il y a plusieurs trous, parce que c'est une grosse cheminée en briques, eh bien, s'il y a un trou qui est gris, si tu regardes bien, c'est une chouette hulotte. Et une phase grise, parce que les hulottes, elles ont plusieurs phases. Ça peut être une hulotte rousse ou une hulotte grise. Là, c'est une grise. Donc, il y a une grosse hulotte qui est là tout l'été, en plein jour. Hein.
Ouais.
entre deux briques, comme ça, elle bouche le trou de la cheminée, comme ça.
C'est ça. Et le soir, elle part quand même faire son boulot. Quoi.
Maintenant, elle est au boulot, là. Donc, elle est au supermarché, quelque part, par là, dans la forêt. Oui. Voilà. Et en ce moment, normalement, les chouettes chantent. Hein. C'est-à-dire que ça va être les amours qui vont battre leur plein en hiver. Mais là, elle marque son territoire, elle dit « je suis là ». Et le fameux chant de la hulotte archi-connu qu'on entend dans tous les films la nuit, le « ou » tremblé, là. Hein. Un « ou » très fort, et puis 7 secondes de silence, et le « ou » comme ça, qu'on entend tout le temps dans les films. Et ça, c'est le chant du mâle. Et puis il y a le cri de chasse du mâle et de la femelle. Enfin, couit, couit, couit. Très fort comme ça qu'on entend dans les bois.
Ah oui.
Si ça, fait, ça va peut-être en faire venir une.
Ça fait venir peut-être la femelle, on ne sait pas. Ça va dur de chance, là, Patrick. Donc,
couit.
C'est vrai que vous avez toute la gamme presque des chouettes.
Hein. Ah mais ici, on est dans un endroit incroyable parce qu'on a toutes les strates. On a des falaises verticales, on a des prairies, des alpages, on a des forêts, on a des prairies de moyenne montagne. Et en bas, dans la plaine, on a encore quelques marécages, quelques roselières. Donc la culture, sûrement, c'est une zone très, très, très utilisée par l'homme. Quoi. Il y a beaucoup de passages, beaucoup d'activités. D'ailleurs, quand le vent porte, on entend le passage des voitures en bas et il y a une autoroute. Donc évidemment, les animaux qui sont dans cette partie de la Chartreuse, s'ils veulent traverser pour aller à Belledonne, ils ont des soucis à se faire parce que deux routes nationales, une autoroute, une voie ferrée, une rivière...
Ah, on a un chat là. Non, non, tu vas pas t'intéresser aux chouettes.
C'est pas un chat sauvage, celui-là.
Non, on peut pas dire.
Il a pas une grosse queue avec des anneaux.
Voilà. Pour repérer le chat sauvage, qui d'ailleurs doit transhumer ici dans la Chartreuse. Hein.
Ah oui, donc, bien sûr, il cherche des campagnols.
On va s'approcher quand même maintenant de la forêt, c'est-à-dire qu'on va se retrouver en lisière. Une fois de plus, on le rappelle, hein, les lisières, ce sont des lieux extrêmement riches en nature, en biodiversité.
Ah oui, parce que les oiseaux, ils sont comme nous, ils ont besoin d'un toit. Hein. Donc il faut qu'ils aient un endroit où ils passent la journée tranquille, parce que sinon ils sont houspillés par tous les oiseaux du voisinage. Il faut qu'ils se reproduisent, donc c'est bien le problème. C'est qu'il y a beaucoup de chouettes qui disparaissent simplement parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire. Il n'y a aucun endroit où elles se reproduisent. Par exemple, ici, il n'y a pas que la hulotte. Hein. Dans les forêts de Chartreuse, ici, on a la chouette de Tengmal. Poup, 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 comme ça. Et la chouette de Tengmal, elle profite du pic noir. Parce que c'est le pic noir qui va faire des trous dans les faillards, justement, dans les hêtres. Ouais. Et comme il change de trou tous les ans, c'est comme l'office HLM, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque trou de pic noir, vous avez une chouette de Tengmalm qui peut nicher. C'est un oiseau sympathique. Donc si on se balade dans les bois dans la journée, puis qu'on entend clou, clou, comme ça, on se dit, tiens, il y a du pic noir. Mais s'il y a du pic noir, on a des chances aussi d'avoir des chouettes de Tengmalm, qui est une toute petite chouette forestière.
La Tengmalm, je crois que c'est la plus petite. Hein.
Non, il y a plus petit, c'est la chevêchette.
Ah oui.
Ouais, la chevêchette, elle est grosse comme un moineau. C'est gros comme une pomme. C'est rikiki.
On va peut-être la voir en plein jour.
Une pomme de rainette.
Hein. En bas.
Alors, la seule qu'on voit en plein jour, qu'on peut voir en plein jour, c'est la chouette chevêche.
Ouais, c'est ça.
Mais la hulotte aussi, la preuve, c'est que celle-là, on la voit dans la cheminée. Donc, quand j'ai dit ça, il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois qu'ils passent au château du Fayet, jettent un œil. Et c'est drôle parce que ça devient
l'attraction.
L'attraction, voilà, ça amène du tourisme.
Alors, parlons quand même de cette fameuse hulotte. Hein, donc, la chouette des chouans.
Ouais, bon. La hulotte, c'est le chat-huant.
Voilà. Hein,
voilà, c'est l'autre nom de la hulotte. Enfin, elle a beaucoup d'autres noms.
Et donc, le cri de ralliement au XVIIIe siècle hein, de ces chouans. Et alors celle-là, c'est peut-être quoi ? C'est la plus, on va dire, la plus commune ?
C'est la plus commune, encore actuellement, oui, dans les rapaces nocturnes, c'est celle qu'on a le plus la chance de rencontrer. Les gens la connaissent, pourquoi ? Parce qu'au moment où les petits sortent du nid, ils sortent du nid avant de savoir voler. Donc on les trouve au sol. Ça, quand dans les centres de soins, c'est une catastrophe, parce que quand les petits sortent du nid, tout le monde les ramasse. Et alors, avec cette idée qu'on s'est mis dans la tête que les animaux, faut pas y toucher parce que les parents vont les lâcher, ça ne marche que pour les mammifères, ça marche pas pour les oiseaux. Alors, les gens, ils osent pas les prendre, mais... Quand on trouve une chouette hulotte qui marche dans l'herbe, comme ça, tout simplement, donc le moindre renard, le moindre chien, même le chat qui passe, il la bouffe, eh ben, il faut la prendre et la mettre sur une branche. C'est tout ce qu'on peut faire. Si elle est blessée, on la met dans un centre de soins. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de transporter des chouettes dans sa voiture. Il faut une autorisation spéciale, parce que tous les rapaces nocturnes et diurnes sont protégés par la loi depuis 1976.
On est bien d'accord, enfin, s'il y a une urgence.
C'est comment on s'arrange avec la loi. Voilà, c'est ça. Mais si on se fait prendre par la gendarmerie, on prend une amende.
Oui.
faut bien savoir aussi qu'on reconnaît les chouettes souvent aux yeux. Hein, si c'est des yeux jaunes, c'est les ducs, c'est les hiboux. Et puis quand c'est des yeux noirs, c'est plutôt des chouettes. La chouette effraie, la chouette hulotte, c'est des grands yeux noirs. Donc déjà, c'est un moyen de repérer les espèces entre elles. Voilà.
Alors, j'ai des yeux quand même très très fixes, mais alors au niveau des cervicales et du cou...
Les chouettes, elles peuvent carrément tourner la tête à l'envers, hein, et surtout, elles ont une vision nocturne absolument prodigieuse, c'est-à-dire qu'elles voient pas très bien sur les côtés, mais par contre, devant, elles voient très bien, parce qu'elles ont deux fovéas à l'intérieur de l'œil, qui fait qu'elles ont une vision binoculaire. Et elles voient très bien le relief, par exemple. Donc une souris, un campagnol, n'importe quoi, elle voit très bien dans le noir. Quoi.
Alors là, on s'est rapproché quand même, ça y est. Là.
On va se retrouver avec un gros sabot de terre.
Voilà, d'accord.
Okay. Et là, on est juste à flanc de Chartreuse. Là, on a une grande prairie devant nous.
On est à l'entrée de la forêt, là.
Voilà. Et il y a la lisière de la forêt. Donc là, normalement, c'est la zone où tous les animaux descendent pour venir au gagnage, manger, pour les chevreuils, les sangliers, les blaireaux, tout ça. C'est une zone de passage intense.
Et alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Juste attendre, enfin, ça s'appelle un affût.
Voilà, exactement, on se gèle et puis on attend.
C'est ça.
Parce que c'est quand même l'école de la patience. Et puis, il faut se dire que la nature, elle n'est pas à notre disposition. C'est-à-dire qu'on peut très bien rien voir, comme avoir des surprises. C'est ça qui est bien. Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir tous les chakras ouverts, écouter, sentir, humer, écouter. Il y a des voitures qui passent. Ben là, évidemment, ça, on ne peut pas la rater. Et voir passer, mais on n'entend pas. Hein, parce que, par exemple, si c'est une chouette effraie, vous n'entendrez pas voler. Ouais. Une chouette, c'est un vol totalement silencieux.
Alors justement, donc revenons sur cette notion de silence. Première arme, première chose à faire, elles sont équipées pour le silence.
Ah ben oui, c'est un vol totalement silencieux parce qu'elles se repèrent au son. Quand une musaringue se balade dans les bois, elle a plein de petits cris, c'est insignifiant, nous on ne s'en rend même pas compte, mais elle, la chouette, elle l'entend très bien.
Et elle-même est équipée pour avoir un vol silencieux.
Oui, parce que sur les plumes des chouettes, vous avez des petites barbules. C'est-à-dire que c'est pas, quand on entend décoller un faisan ou un pigeon, on l'entend, le son est très fort, mais une chouette, on n'entend pas. Ça ne fait absolument aucun bruit. C'est pour ça que c'est à l'origine de toutes les histoires de fantômes, par exemple. Parce que la chouette effraie, c'était un oiseau qui était très souvent près de l'homme. Pourquoi près de l'homme ? Parce que près de l'homme, il y a à manger. Hein. Près des fermes, il y a des rongeurs, parce qu'il y a du grain. Enfin, c'est toujours la chaîne alimentaire classique. Et donc, une chouette effraie qui niche dans un grenier ou qui niche dans une grange, quand les granges étaient ouvertes, pleines de foin, évidemment, il y avait des campagnols, des souris, des mulots. Donc, la chouette effraie, elle faisait son boulot. 5-6 bestioles par nuit. Et quand vous voyez une surface blanche avec deux yeux noirs perchés sur une poutre, lumière tremblotante d'une bougie ou d'un lumignon quelconque, bah évidemment, on a l'image du fantôme, quoi.
Ben oui, vous êtes bien donc sur France Inter. Et le voyage va continuer avec Patrick Deschamps. Si vous avez le temps, je vous recommande aux éditions Glénat « Chouette et hibou » de Guillaume Le Saffre, qui est un extraordinaire naturaliste. « Chouette et hibou » de Guillaume Le Saffre.
Je sais cette chanson-là, Riverman, les violons, à chaque fois, le cœur qui tombe en panne. Je sais cet amour-là, débutant, premier matin chez toi, l'escalier en partant. Et je sais dans un cinéma, ton visage, tes yeux qui s'inondent, mais je ne sais pas si c'est tout le monde. Je sais cette forêt-là, les choses laissées là-bas, ultra moderne enfant. Je sais ces années-là, les soirées, la fumée, la vodka, les amours, l'amitié. Et je sais la chambre avec toi, à 5 heures dans la nuit qui tombe. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde. Je sais cette odeur-là sur la place des parents ne sont plus là, ce parfum les remplace. Je sais cette chanson-là, Riverman, les violons, à chaque fois, le cœur qui tombe en panne.
Comme je m'apprêtais à vous le dire, donc Vincent Delerme, donc élevé du côté du Beaumont-le-Roger, donc avec des chouettes sûrement, à l'entrée de sa Normandie. Oh Edwige, donc la blanche, donc Arfand des Neiges, alors ça vous ne la trouverez pas sous nos contrées, donc c'est la chouette de Harry Potter, est toujours sur mon épaule. Je rappelle quand même que le hibou n'est pas le mari de la chouette, comme le crapaud n'a jamais été le mari de la grenouille, hein, je reprends les fondamentaux. Et là, on retrouve nos chouettes qui savent exploiter les opportunités de la nuit avec Patrick Deschamps.
Alors une fois de plus avec Patrick Deschamps, donc là on est vraiment en limite de champs d'un côté et de forêt de l'autre avec ce massif de la Chartreuse en train de guetter. Alors est-ce qu'elle nous voit?
Ah bah oui, et s'il y avait une chouette perchée dans l'arbre qui est là en face, elle se serait envolée même.
Bon, il y a quand même une distance de fuite, non?
Bah là elle est au boulot, hein. Là, normalement elle chasse. En début de nuit. Et souvent, elles font une chasse en début de nuit, elles font une pelote dans la nuit, une petite pelote, et puis elles repartent pour une deuxième chasse plus longue. Et la grosse pelote, elles la feront dans la journée, pendant qu'elle se repose. Quoi.
Bon, alors là, vous avez dit pelote, donc pelote de réjection, j'imagine.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il va sortir par le bec, et en fait, c'est tout ce qu'elle ne peut pas digérer.
Voilà.
Donc on va avoir des petits bouts d'os.
Les sucs gastriques sont très puissants. Ouais. Quand on prend un campagnol ou un mulot, on l'avale sans le mâcher, on l'avale direct comme ça. C'est impressionnant, parce que si un jour l'occasion d'observer un grand-duc qui avale un hérisson, par exemple, il arrive à l'avaler complètement. Il va recracher donc les épines de hérisson, la peau, tout ça, dans une pelote. Il va digérer très vite. Pourquoi ils ont besoin de digérer très vite? Parce que s'il se balade, d'abord, c'est très léger, un oiseau. Plus il a le gésier plein, plus il est lourd. Donc il intéresse à se débarrasser très vite. Ouais. De ce qui lui sert à rien. Alors ça, les enfants, ils adorent ça, disséquer les pelotes de chouette, parce que à l'intérieur, on trouve un puzzle, quoi. Les petites musaraignes, il y a les mâchoires, les crânes.
Une petite boîte au trésor, quoi.
Oui, complètement. Ouais. Alors on aligne ça sur des grandes feuilles de papier, on colle, et puis on a carrément un squelette. Alors on a l'impression d'être des scientifiques. Ouais. Et en même temps, on prouve aux enfants et aux agriculteurs que c'est des animaux utiles, puisqu'ils vont débarrasser 5-6 souris dans la nuit, sans produits chimiques, sans technologie, et en silence.
Hop ! Ça sent bon. Même si on se les prend dans la poire, les branches, ça sent quand même bon.
Des fois, on se prend des châtaignes aussi. Poc, une châtaigne sur la tête. Bon.
Et alors, là, écoutez ça. Écoutez ça.
Voilà, c'est le chant d'un mâle. Et le chant d'un mâle, il marque son territoire. Il se dit, je suis chez moi ici, s'il y a une femelle qui passe, je suis preneur. C'est le Tinder nocturne. Par contre, elles ont des problèmes de logement, ça c'est sûr.
Alors, oui, parce que moi je suis une chouette, il me faut quoi? Soit un arbre creux, il me faut de... Je suis une espèce cavernicole.
Il faut déjà un endroit tranquille, ce qui est de plus en plus difficile à trouver. Alors, donc les bâtiments agricoles, autrefois il y en avait pas mal, dans les vignes, tout ça, il y a des petits bâtiments où on rentrait le matériel, avec un petit cellier en haut qui était ouvert à tous les vents, et donc les chouettes profitaient de ça, les granges ouvertes aussi, et ces granges ont tendance à s'écrouler, elles ne sont pas entretenues, les toits s'effondrent, tout ça, ou alors elles sont rachetées, tout retapées, tout est bouché pour lutter contre la chaleur et le froid, l'hiver et tout ça.
Donc, on disait la même chose pour les hirondelles.
Ben oui, il n'y a plus rien. Quoi. Et puis, il y a aussi la quantité de nourriture qui baisse. Ben, pour les chouettes, non, parce que les rongeurs, il y en a pas mal. Ça n'a pas de problème. Mais c'est surtout la tranquillité. Quoi. Elles sont sans arrêt dérangées.
Alors, notre chouette, elle peut avoir différents noms. Là, ici, dans ce département de l'Isère, je crois qu'on l'appelait la boubou.
Des noms de terroir, il y en a pas mal, évidemment, parce que c'était très populaire, forcément. Mais par exemple, on dit boubou pour la chouette, mais il faut savoir que le nom latin du grand-duc, c'est boubou boubo, c'est du latin.
Eh oui.
D'ailleurs, c'est intéressant les noms latins des animaux, parce que c'est de la poésie pure, c'est des mots magnifiques. Asio Otus, le hibou moyen-duc.
Asio
Otus. À chaque fois, ça fait du vocabulaire, c'est un peu ce que disait Marcel Pagnol. Quand vous avez un nouveau mot, ben, vous êtes un peu plus riche qu'avant, quoi.
Et notre Asiotus,
il peut y en avoir ici des Asiotus. Ouais. Bah, il y a des années où il y a pas mal d'Asiotus, mais au siècle dernier, il y avait des rassemblements l'hiver de plusieurs dizaines, voire une centaine de hiboux moyen-duc. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des comme ça. Hein. Mais il y a des années de fluctuation aussi. Il y a des années où il y en a plein. Pourquoi il y en a plein? Bah, parce qu'il y a énormément de nourriture. Les années où il y a énormément de campagnols, bah, les oiseaux se reproduisent, forcément, puisqu'un prédateur se reproduit toujours en fonction de la nourriture. S'il n'y a pas de nourriture, les oiseaux ne se reproduisent pas. C'est aussi un facteur limitant. C'est pour ça qu'un prédateur ne peut pas pulluler, parce que s'il pullule, bah, ça veut dire qu'il n'a pas assez à manger, qu'il va crever de faim. Donc forcément, quand on voit un prédateur quelque part, c'est un signe que c'est en bonne santé. Parce que tous les étages en dessous sont en bon état.
Et c'est valable pour le loup, donc.
Pour tous les prédateurs, bien sûr. Ouais. Donc à chaque fois qu'on voit un rapace, bon, on devrait être content, parce que ça veut dire que s'il est là, bah, c'est qu'il a à manger.
Et alors Patrick, le maître absolu du territoire, c'est quand même le Grand-Duc.
Ah oui, alors le Grand-Duc, il niche dans les falaises de Chartreuse et il descend dans la plaine se nourrir. Par exemple, quand il y a un dépotoir égale rat. Oui. Et par exemple, ben, le Grand-Duc, il peut venir chasser les rats sur un dépotoir. Comme il y a de moins en moins de dépotoirs sauvages, ben, le Grand-Duc, il se trouve à chercher ailleurs.
Alors qu'est-ce qu'il prend? Parce qu'il va taper d'autres oiseaux, là.
Ah ben oui, il peut taper tout le reste. C'est un super prédateur, il peut bouffer une chevêche, il peut bouffer une hulotte, il peut bouffer un hérisson, il peut bouffer un jeune renard, un lapin, n'importe quoi. Les chauves-souris.
Comment elle se porte, notre chouette? Ça va dépendre des territoires?
Ça dépend laquelle
chouette. Hulotte.
La hulotte, bah, la hulotte, elle est relativement fréquente parce qu'il y a encore des forêts. Il y a des endroits où c'est relativement tranquille la nuit. Et puis, il y a des falaises. Elles peuvent trouver des endroits pour nicher.
Ouais.
Voir les cheminées des châteaux. D'ailleurs, c'est un problème souvent parce qu'elles tombent dans les cheminées aussi. Il y a beaucoup de chouettes qu'on retrouve dans les poêles à bois.
Oui.
Parce qu'évidemment, le réflexe de l'oiseau, quand il est surpris, quand il est dans un arbre creux, c'est de descendre au fond de l'arbre. Mmh. Mais s'il est sur une cheminée, bah, il descend au fond de la cheminée. C'est pour ça aussi que pendant des années, 30 ans, voire 40 ans, on s'est battu avec les télécoms poteaux, pour les poteaux creux. Parce qu'évidemment, il y a des régions où il n'y a plus un arbre, il n'y a plus que des poteaux. Donc une chouette qui est perchée sur un poteau, quand elle voit passer quelqu'un, son réflexe est de descendre dans le poteau. Donc, ils font 9 mètres.
Les poteaux métalliques.
Et oui, les poteaux métalliques qui ne sont pas bouchés.
C'est pour ça qu'on s'est bagarré, pour mettre des petits chapeaux, chapeaux en plastique.
Alors ça, c'est un truc que j'aurais dit en passant, parce qu'on nous dit toujours, les chasseurs sont des gestionnaires de la nature, ils aiment la nature et tout ça, mais j'ai encore jamais vu un chasseur ni boucher un poteau PTT, ni se battre avec le DF contre les électrocutions de rapaces. Ouais. Ça, c'est de la gestion aussi. On n'est pas que des écolos de salon, on est sur le terrain assez souvent et on aimerait bien travailler ensemble. Voilà. Une magnifique constellation ici. Alors, il y a la grande ours, petit ours.
Ouais.
Et de ce côté-là, il doit y avoir Orion.
Ah oui, ça y est.
Il y a les trois étoiles là.
Cela dit, c'était un coin à ours, hein, parce que
ben oui,
du côté du grenier.
Il y a le trou de l'ours là-haut.
Voilà, le trou de l'ours,
La grotte de l'ours, bien sûr.
Alors on est en train de se geler quand même gentiment, parce que c'est vrai que l'affût, il ne faut pas trop bouger, quoi. C'est
ben
ça.
Oui, c'est ça.
Alors on a été récompensé déjà un peu.
Le problème, c'est que quand tu bouges, t'es vu.
Et pas vu, pas pris. Waouh, ça y est. Oh là, elle s'y remet là.
Voilà.
Un petit coup. Ah ouais, je sais pas si c'est. Mais si, c'est le mâle toujours.
Oh ouais, c'est le mâle. Bah oui, c'est le mâle qui marque là.
Ah oui, ce qui peut être là. Comment il est assez loin quand même.
Mais... Ouais, bah, il est en lisière de forêt, il est perché sur une branche, puis il mate.
Ah ouais.
Il mate, il fait le beau.
Qu'est-ce qui vous éclate, vous, dans cet animal, vous, Patrick Deschamps?
Alors ça. C'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi les chouettes chevêches, par exemple, surtout la chouette chevêche, parce que d'abord, c'est celle qu'on voit le plus facilement.
C'est beau.
C'était le symbole de la sagesse chez les Grecs anciens.
Athéna.
Oui, la déesse Athéna.
Ouais.
C'était un oiseau qui était très, très, très fréquent. Hein. Il paraît que dans la Grèce antique, les gens se plaignaient parce qu'ils entendaient chanter trop souvent la nuit.
Ouais.
Moi, j'aimerais bien l'entendre chanter, parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas entendu chanter chez moi. Il y en avait. J'avais 7 couples dans ma région quand je suis arrivé ici. Là, maintenant, il doit y avoir 3 ou 4 couples
pour la vallée du Grésivaudan, entre la Bussière et Crolles, là, c'est tout.
Parce que les conditions d'hébergement, les conditions de nourriture ont changé ?
Non, la nourriture, il y en a toujours. Ben, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits chimiques, ça veut dire qu'il n'y a plus de gros insectes aussi.
Hein. Ah, ça.
Les lucanes, les hannetons, qui se rappellent les milliers de hannetons qu'il y avait autrefois, les cétoines, les grandes sauterelles. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que enfin, tout va se rééquilibrer, mais avec le réchauffement climatique, par exemple cette année, on a presque un climat d'Afrique du Nord. Ouais. Cette année, par exemple, il y avait beaucoup d'acritiens, des criquets, partout. Donc là, normalement, ça devrait être favorable aux chouettes, comme la chevêche, aux faucons cresserelles, tout ça, parce que c'est des oiseaux qui se nourrissent principalement d'insectes. Hein. Les grandes sauterelles vertes, tout ça. Et donc, il ne devrait rien avoir. Donc, d'une certaine façon, il y a des choses qui les favorisent, puis des autres qui les défavorisent. Par contre, c'est les arbres qui souffrent, parce qu'ils n'ont plus d'eau.
Ah, Cassiopée.
Waouh. Tu vois le grand ouais. W, là ? Ça, c'est Cassiopée. Une silhouette d'arbre contre la pleine lune, là, c'est, tout est magnifique.
On est envahi d'ombres chinoises.
Voilà, c'est ça. On est dans une estampe japonaise.
Ouais. Hop, oula. Alors, je ne sais pas si c'était une hulotte ou pas, mais enfin, si, à ce temps-là, c'est pas...
Ah oui, mais ça ne vole pas très haut, là.
Mais non, non.
Ça chasse au ras des piles, des
ouais,
poteaux, là.
Ouais, ouais.
Et alors, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que dans les années 30, ici, il n'y avait pratiquement pas d'arbres, parce qu'il y avait beaucoup d'activités pour faire du charbon de bois, par exemple, tous les arbres étaient coupés. C'était beaucoup plus entretenu par les alpages et tout ça. Mais les forestiers l'ont compris maintenant à l'ONF, quand ils font des coupes de bois, des fois, ils gardent des vieux arbres. Quand on a la chance d'avoir un arbre creux, très gros, qui n'a pas une valeur marchande, autant le garder.
Ils font attention. Ouais.
Voilà. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup des propriétaires privés. Et les propriétaires privés, c'est on laisse pousser les arbres pendant 40 ans, puis après, on fait des coupes à blanc, on rase tout. Même si à l'intérieur de la coupe, il y a des arbres qui pourraient être intéressants, des gros merisiers, un gros chêne, un gros châtaignier, intéressant, ben, on fout tout en l'air. Et ça, c'est dommage, parce que les arbres, ben, on trouve plus d'endroit pour nicher. Voilà. Heureusement qu'il y a les piques noires qui font leur travail de
petits marteaux piqueurs.
Voilà, de construction pour les autres. Et cette année, il y a beaucoup de piques parce qu'avec la sécheresse, il y a beaucoup de d'épicéas qui sont atteints par les scolytes.
Ouais.
Et les piques, les scolytes, ils les entendent et ils picorent les troncs. Et il y a beaucoup de piques. Ils ont à manger.
Ouais, c'est vrai que là, on pense à nos forêts du quart nord-est de la France qui sont. Bien bouffé par les scolytes, épicéa entre autres. Et là, c'est quand même très compliqué après.
Bon, en fait, il y a des oiseaux qui vont profiter du renouveau du couvert forestier, comme les hulottes par exemple, ça c'est sûr. Par contre, les chouettes effraies, eh ben, elles prennent des coups parce que leur habitat est complètement menacé. Quoi. C'est pas un oiseau forestier, c'est pas un oiseau montagnard, c'est un oiseau de plaine, et les plaines ben, sont très très occupées par les activités humaines, évidemment.
Notre chouette dite des clochers.
Voilà, l'effraie des
celle-là.
Clochers, la dame blanche.
Ah, la dame blanche.
Ouais, c'est à l'origine de toutes les histoires de fantômes.
Bon, Patrick, on va se quitter avant d'être complètement gelé, parce que...
Sinon, on va nous retrouver gelés.
Bah, c'est ça. Bon, bah, au revoir, Patrick.
Au revoir, Denis. Je vais regagner mon nid, c'est le moment. On va laisser travailler les chouettes tranquilles. Là.
Ouais.
Faut qu'elles mangent aussi, faut qu'elles nourrissent leurs futurs petits. Hein. Ils prennent des forces. C'est pas facile de passer l'hiver. Ouais. S'il neige beaucoup, bah, c'est pas facile de chasser dans la neige. Tout. Voilà.
Bon, bah, à bientôt, Patrick.
À bientôt, Denis.
Ben oui, et bientôt, parce qu'en fait, Patrick Deschamps, vous l'avez compris, est un formidable raconteur du vivant, et nous avons d'autres sujets, comme on dit, sous le coude. Je vous renvoie donc à cet ouvrage, hein, si vous le souhaitez, Chouette et Hibou, de Guillaume Le Saffre, aux éditions Glénat. Alors là, c'est une vous avez toutes les chouettes du monde qui se tiennent par la plume.
La terre va mal. La terre souffre. J'ai mal à ma terre.
CO2, mon amour.
Mais des hommes ont décidé de faire la différence sur cette planète.
Denis Chessou.
La nature s'ouvre aux hommes uniquement si les hommes s'ouvrent à la nature.
Gordy,
c'est moi.
Bah non, c'est moi.
Sur France Inter.
Notre mot de l'environnement, restons avec le mot chouette avec vous, Henriette Walter, donc linguiste. On veut en savoir plus.
Bonjour Denis.
Alors Henriette Walter, commençons. Bon, déjà, on le sait, on ne confond pas la chouette avec le hibou.
Ah oui, attention, parce que en fait, pour le hibou, il y a des aigrettes, c'est-à-dire des petites plumes en forme de d'oreilles. Et si on veut bien se souvenir qu'un hibou, c'est comme ça, il faut se souvenir du nom qu'il a en anglais. En anglais, on dit eared owl. Eared, on voit le ear qui est l'oreille, et owl qui est la chouette, c'est-à-dire la chouette à oreille, qui est donc notre hibou.
Henriette Walter, l'étymologie, on y va, l'origine donc de ce mot chouette.
Alors le mot chouette en français, enfin dans la plupart des langues, comme en français d'ailleurs, il s'agit d'onomatopée, c'est-à-dire qu'on répète le cri de la chouette. C'est pas vraiment un chant, hein, souvent il n'est pas très, très sympathique. Alors il y a dans chouette, il y a ch, c'est-à-dire un chuintement. C'est la même chose en italien, dans civetta, on entend de nouveau ch. Mais en anglais, on a owl, comme on l'a vu tout à l'heure, O-W-L. Et c'est plutôt un ululement, comme notre ulotte, qui vient du latin ulula, ulula. Maintenant, si on passe à l'espagnol, c'est très différent. On dit lechuza, mais on trouve pas d'onomatopée là. Dans lechuza, on voit qu'il s'agit d'un oiseau de nuit. Pourquoi ? Parce que avant de s'appeler lechuza, avec un L, il s'est appelé nechuza, avec un N. Et dans N, ce N-là, on le retrouve dans le latin noctua, qui est le nom de la chouette, oiseau de nuit.
Il y a évidemment cette expression que nous, on utilise de manière extrêmement positive et quasiment toujours. On dit « Ah bah tiens, c'est chouette !»
Voilà. Alors, ça dépend des langues, en fait. C'est très contradictoire. On peut aller du pire au meilleur. Ah. En espagnol, lechuza, comme on vient de voir, désigne, vous savez quoi ? La sorcière. En italien, civetta, c'est une femme coquette et frivole, ce qui n'est pas tout à fait un compliment. Mais en français, quand on dit c'est chouette, c'est comme si on disait c'est génial. Mais je crois qu'il y a bien mieux. Et ça ne date pas d'hier. Il suffit de se rappeler que la chouette était drôlement bien vue dans la mythologie grecque. Elle était la tribu d'Athéna, Minerve en latin, qui était la déesse de la sagesse, de la pensée élevée, des lettres et des arts. Excusez-moi du peu.
Mais je vous en prie. Merci beaucoup, Henriette Walter. Et juste quand même un petit rappel, c'est que dans l'ancien français, le verbe chouetter, elle signifiait faire le coquet. Voilà. Et depuis, donc, le sens être beau s'est étendu donc à c'est une bonne nouvelle. Le dernier mot de l'environnement à Jacques Bonafé.
Vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Anaïs Nin.
Merci à Paul Percheron, à la technique, à Mathias Saléon qui a mixé donc ce reportage, à Camille Blanès avec qui nous avons préparé l'émission et Jérôme Boulet qui l'a colorisé, qui l'a réalisé. Thierry Dupin a choisi les disques. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Denis Chessou, c'est donc le Twitter. Ne l'oubliez pas, Denis Chessou pour le Twitter. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre sujet. On verra bien.